Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Voilà les enfants, on a pris un an de plus, mais pas une ride, vous avez vu, hein. Voilà, je ne vais pas chercher dans l'originalité pour le titre, puisque c'est Yom Kippour. Mais Yom Kippour en tant que manière d'orienter l'année. On va essayer donc d'apprendre un certain nombre de choses. Je voulais vous remercier de deux choses. La première, c'est de donner l'occasion de préparer un cours approfondi. Un rave qui travaille en cours, il est le premier bénéficiaire. Donc merci. La deuxième chose, c'est que je vous remercie sincèrement d'être là, parce que la fidélité est une très belle qualité, et vous trouvez ici toujours aussi enthousiaste. C'est pour moi une grande source de bonheur. À présent, on est dans la nouvelle année, depuis quelques jours seulement. On est dans une période charnière qui s'appelle les 10 jours de Teshuvah, pendant lesquels on doit tous essayer, chacun à son niveau, de prendre des résolutions et de les appliquer immédiatement. Comme vous le savez, l'arrivée au cours ce soir était un peu compliquée, des manifestations devant le salon Roche, moi je croyais qu'il voulait rentrer au cours. Moi, nous. D'ailleurs, il voulait fesser chez moi très bien pourquoi, je n'ai même pas si vous le savez. La Syrie, pour la Syrie, contre la Syrie, puis la Syrie avant la Syrie. Le fait est, c'est que j'avais l'impression de voir des jeunes, parce que les manifestants étant essentiellement des jeunes, qui quelque part se cherchaient. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est une manifestation pro-syrienne, ça vous dit un peu le style. Ceci étant, on va le laisser avec leurs excitations, et nous ensemble, nous allons nous élever vers les cieux lointains, vers les galaxies, vers les étoiles qui, elles, ne s'éteignent jamais, que la Torah, d'ailleurs, compare au juste, elle dit, Mazika Arabim, Kekochavim, Leolam va être dans un très beau verset, et ceux qui font faire des mitzvot aux autres ressemblent aux étoiles du firmament. C'est-à-dire, quand soi-même, les uns les autres, je ne parle pas maintenant d'Arabe, je donne un chiour, mais toute personne, c'est une des conclusions de notre cours, je préfère le dire d'emblée, toute personne qui fait faire une mitzvah à un autre, acquiert l'éternité. Et est comparable à une étoile. Et vous remarquerez que, enfin, en tout cas, moi je peux vous dire par expérience, les juifs, j'ai beaucoup d'amis juifs, c'est pour ça que j'en parle, hein, ils adorent les mitzvot. Dans ma vie, je n'ai jamais vu un juif refuser de faire une mitzvah. Même quand il ne sait pas. Je me souviens un jour, j'étais en Israël, nous avions fait une excursion vers la mer Morte. J'étais dans l'année de deuil de ma mère, je crois. Et donc, de toute façon, je suis toujours avec Mimi, mais je voulais absolument faire Mincha avec 10 personnes. On était un petit groupe, on se compte, on était 9. Et voilà que je perçois là-bas un jeune. Et je lui demande, tu veux faire mitzvah avec nous? Vous savez ce qu'il me répond, en hébreu bien sûr, Ani lo dati. Comprenez, je ne suis pas religieux. Je dis, et alors? Après, il vous dit, tu es juif? Il me dit, oui, alors c'est la mitzvah de faire mitzvah, viens avec nous. Il est venu, il avait un kiff. Il voulait qu'on la fasse 2 fois, je dis, faut pas exagérer. Donc, pour être sérieux, essayez de voir autour de vous, quand vous proposez à quelqu'un de faire une mitzvah, qui qu'il soit, demandez-lui, vous allez voir, il refusera jamais. Même quand il s'agit de donner de sa poche, de donner de son temps, de faire un quelconque sacrifice. Je crois que chez Israël, une mitzvah, ce n'est pas un devoir, c'est une vocation. Pour cette raison, quelque part, à tous les niveaux, les Juifs s'identifient aux mitzvot. Et moi, je vous dis, j'ai parlé de la manifestation qui tenait dehors quelques secondes, pour vous dire, je le disais à Jonathan, avec qui je rentrais, on appartient à deux mondes différents. Pas vraiment les options politiques pour ou contre la Syrie, mais en voyant la jeunesse qui est ici, qui cherche à s'élever, à comprendre, à vibrer, qui a des aspirations spirituelles. Et quand je vois trop souvent le dévouement, la violence qui règne dans les rues, quel qu'en soit le prétexte, je me dis vraiment, quel bonheur d'être juif. Et on va essayer. Ah, tu t'en vas, c'est pas fini. Hein. Non, je dis ça pourquoi il y en a un autre qui avait un ami des doigts. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, le Yom Kippour. D'abord, un texte que je trouve sublime. Quand Dieu a créé le monde, on dit que la première des choses qu'il a créées, c'est une lumière. Vayomer Elokim Yehi Or. Vayehi Or. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, verset célèbre, c'est nommé. Et nos maîtres dirent de là, la lumière, Dieu a dit, elle sera. Bonsoir. J'ai été remis comme la lumière sur un chat. La lumière a été, et la lumière n'est plus. Ainsi dit-il, de là vient l'idée qui s'appelle Or Yamous, la lumière cachée. En effet, la lumière dont parle la Torah au début, au premier jour, personne ne l'a vue. Puisque nous nous voyons simplement le système solaire, les étoiles, les galaxies, qui ont été créées, eux, au quatrième jour, plus tard. Et cette lumière, où est-elle passée? De là, nos sages ont dit, Dieu l'a cachée et il la réserve au juste dans le monde futur. Cependant, un midrash dit, voilà pourquoi je le cite maintenant, que cette lumière, elle apparaît tous les ans à Yom Kippour, à celui qui sait que c'est Kippour et qui essaie de faire Kippour. J'ai formulé comme ça, qui essaie de faire Yom Kippour, même si quelqu'un, pour lui Kippour, c'est sieste carabinée, après grasse patinée, après un coucher précoce, bref, il a dormi 18 heures. Mais il n'a pas mangé. Et bien, il a fait Kippour, entre guillemets. Et donc, maintenant, puisqu'on est dans les confidences, je vais vous dire, moi, j'adore les Juifs de Kippour. Non, mais sérieux, hein. C'est quand j'étais adolescent, je passais mon temps dehors de la synagogue à Kippour. Ça reste entre nous, hein, il y a un pâté aux mains. J'étais sur le trottoir, contrairement à ce que des mauvaises âmes pourraient penser, chercher pas ma femme, je l'avais déjà trouvée, mais j'étais là comme ça au milieu de ces juifs qui déambulaient sans savoir pourquoi ils étaient là. Et vous les voyez, ils étaient tous contrits par le jeûne. On voyait qu'ils jeûnaient et que c'était difficile. Et c'est vrai que Kippour, quand on ne le comprend pas et quand on ne prie pas, c'est une épreuve. Plus on prie, plus on comprend Kippour, et plus il est facile. Maintenant, sans faire le faillot, je vais vous dire quelque chose qui est vrai que je pense. Moi, je trouve Kippour trop court. Ça dépendait de moi, j'aime très 4 heures, mais je dirais à personne. Hein. J'en parlerai pas là parce qu'ils risquent d'écouter, on sait jamais. Excusez, on essaie un nouveau micro, donc... Il y a eu les micro-cravates, les micro-vestes, maintenant c'est le micro-ressort. Donc j'ai l'impression d'être... Je suis le dentiste.
C'est un micro Madonna.
Le micro quoi?
Madonna.
Madonna. Je connais. En tout cas, sans connaître Madonna, j'aime son micro. Donc en ayant déjà appris ça, on voit le niveau de Kippour. Un jour en dehors du temps. Un jour au-dessus du temps. Un jour qui nous fait parcourir toute l'histoire, depuis le premier jour de la création jusqu'au dernier jour de l'histoire humaine. C'est pourquoi il est très très difficile d'extraire des idées simples et claires de Kippour. On va essayer. Mais déjà, je voudrais vous demander quelque chose. Sincèrement, si vous voulez passer un Kippour cool, priez. Vous allez voir comment la prière est prenante, même si vous ne comprenez pas l'hébreu. Si vous comprenez l'hébreu, c'est carrément un régal. Mais si vous ne comprenez pas, être dans le texte et lutter contre la montre, parce qu'il faut terminer tout à l'heure. On est dans une course contre la montre. On ne voit pas passer le temps. Sachez juste que chacun des mots de la prière est important. Et que la prière de Kippour, essentiellement, c'est la description par le détail de ce qu'on appelle à Avoda, le service cérémonial qui avait lieu dans le temple de Jérusalem. On a gardé le moindre détail. Comment faisait, parce que c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui officiait le jour de Kippour, dans le temple. Il se préparait une semaine en avance, il dormait dans le Beth Amidash une semaine en avance, et il avait donc des gestes précis à accomplir, avec une très grande ferveur, avec une très grande précision. Et on lit pendant les prières le détail de cette Avoda. Ce cérémonial. C'est simplement sublime. Je vais en extraire juste un mot, mais ce n'est pas le sujet de notre cours. Hein. Entre autres, on préparait, avant Kippour, deux animaux identiques, étaient des boucs, et on les tirait au sort. Sur l'un d'entre eux, on marquait le mot Kippour, c'est-à-dire qu'on allait le sacrifier pour sacrifice de Kippour dans le temps. Et l'autre, il s'appelait Seir l'Azazel. On l'envoyait dans un endroit précis, à l'extérieur de Jérusalem, environ une quinzaine de kilomètres. On avait préparé celui qui accompagnait le bouc. Vous savez, ici en France, les gens ils sortent leur chien. Nous, on sort notre bouc. À Kippour, à l'époque où il y avait le temple de Jérusalem, tous les kilomètres, il y avait une station, entre guillemets, dans laquelle on avait disposé du pain et de l'eau, au cas où l'accompagnateur risquait de se sentir mal. Et comme il savait qu'il avait à manger, il se sentait pas mal. Parce que beaucoup de gens sont mal à Kippour, ils font pas de l'hypoglycémie. Ils font une grande rasra, c'est tout. C'est-à-dire, c'est l'angoisse de Kippour. Et quand quelqu'un sait qu'il n'a pas à manger, il a beaucoup plus faim. Si vous êtes sûr d'avoir la nourriture sur vous, comme on dit en hébreu, pito mais salaud, son pain dans son sac, l'homme n'est pas affamé. Ce qui affame l'homme, c'est pas l'absence de nourriture, c'est le fait de savoir qu'il n'en a pas. Donc là, en tenant compte de cela, on prévoyait le déplacement de ce Cohen qui accompagnait le bouc, qui était le bouc porteur, ce qu'on appelle en français le bouc émissaire, qui portait tous les péchés, entre guillemets, d'Israël sur lui, et lui, on le précipitait du haut d'une falaise, et il mourait comme ça. Voilà les deux boucs de Kippour qui sont descendus de l'Avoda, et d'ailleurs, il restait en hébreu moderne une expression, quand on dit à quelqu'un « Lech le Azazel »,« Va à Azazel », c'est ce qu'on dirait en français dans le diable, « Va te faire voir ailleurs ». On désigne en fait ce bouc émissaire, chargé de toutes les fautes du peuple d'Israël. Voilà, j'arrête là le descriptif de l'Avoda pour essayer maintenant d'approfondir quelques-uns des thèmes majeurs de Kippour. Je voudrais vous parler d'abord et avant tout de l'homme et de l'habitude. L'habitude est une force et une faiblesse à la fois. Expliquons-nous. Grâce à l'habitude, l'homme peut s'acclimater, peut s'habituer aux conditions les plus épouvantables. Nos sages n'hésitent pas à dire que c'est un cadeau que Dieu a fait à l'homme. En m'habituant, je peux supporter des choses incroyables. Si vous prenez, vous parlez à des anciens déportés, moi, tant qu'il y en avait que je pouvais, avec qui je pouvais parler, je l'ai fait, de façon approfondie, en leur demandant, en leur posant des questions, en leur demandant entre autres comment ils ont supporté, s'ils ont supporté. La plupart du temps, la même réponse revenait, on s'était habitué. Habitué à quoi? À ne pas manger. Un crouton de bain dur, c'était un festin à Auschwitz. Je me souviens d'un d'entre eux qui, après avoir fait sa LIA, il s'appelait Maître René Reis, et il m'avait dit le plus beau jour de ma vie à Kippour. À Auschwitz, pardon, c'était Kippour. Parce que ce jour-là, personne de toute façon mangeait. Et moi, je savais pourquoi je ne mangeais pas. Ça change tout. Et lorsque un autre détenu lui avait proposé un morceau de pain dur, il a refusé en disant non merci. Vous rendez compte, refuser de la nourriture à Auschwitz, ben oui, certains hommes en ont été capables parce que c'était Kippour. Et très souvent, vous le savez, les nazis marchaient mal, ils prenaient un plaisir sadique à apporter ce qu'ils appelaient la soupe aux détenus dans une grande marmite. La soupe, c'était 4 ou 5 légumes qui se bagarraient dans 10 litres d'eau. Et à dernière minute, il rentrait cette marmite dans un baraquement, il donnait un coup de botte et il renversait la soupe par terre pour avoir la jouissance sadique de voir les détenus à quatre pattes comme des chiens en train de lécher par terre le peu de soupe qu'ils pouvaient laper. Et il y a un jour, moi j'ai aidé dans ce cas-là, ben, je ne me suis pas prosterné devant la soupe, je n'ai pas mangé. Et je me sentais très fort. Celui qui consent à un sacrifice n'a rien à voir avec celui qui le subit. Et en fait, Kippour, c'est de la grandeur, c'est qu'on habitue les Juifs à choisir le sacrifice, à choisir de ne pas manger. Ça rend l'homme très fort. Il faut dire qu'on est tous tellement dépendants, j'ose dire esclaves de la nourriture, ne pas manger nous paraît tellement invraisemblable. Posez des questions autour de vos amis non-juifs que vous avez. Vous verrez quand on leur dit, on jeûne, ah bon, 25 heures, enfin vous buvez un peu, non? Un pas d'eau, un pas d'eau. Non pas une goutte, non pas une goutte. Ça paraît, on paraît, on passe pour des surhommes. Et nous, franchement, entre nous, on s'en croit pas trop, quoi. Un peu, juste un peu. Mais cette force-là, c'est ce que nous a conféré Thibault. Je reviens donc au thème de l'habitude. L'habitude, c'est ce qui permet à l'homme de supporter les choses les plus épouvantables. J'ai donné l'exemple de la Shoah, de la déportation. Prenez toutes les autres tragédies qui peuvent traverser la vie d'un homme, la souffrance, la maladie, le danger, l'homme s'habitue. Grâce à l'habitude, il supporte et il peut traverser la vie et surmonter les moments difficiles. À l'inverse, si on a un événement auquel on n'est pas habitué, qui est brutal, même si c'est un événement heureux, on peut en mourir. La Gemara dans le Shabbat donne l'exemple d'un homme, d'un arabe, qui était parti étudier pendant 12 ans. Sa femme ne savait pas où il était, et lui, finalement, il a prolongé son étude, parce que, pour des tas de raisons, je ne sais pas, il a décidé un jour de revenir. Il revient, et il était tellement parti précipitamment qu'il avait oublié où il habitait. Alors il a vu, il s'appelait Rabbi Khalida Ben Khalzalai, il a vu une petite fille qui était à côté d'un fleuve, et quelqu'un a parlé à cet enfant et lui a dit, allez, remplis ta cruche, Ben Khalzalai, et rentre à la maison. Il a compris que cette fille était la sienne. On l'appelait fille de son nom à lui. Alors il a décidé de la suivre. Il a suivi cet enfant qui effectivement l'a amené là où il habitait. Et sa femme a été très surprise. Elle était en train, avec moi d'ailleurs, de pétrir du pain. Et à ce moment-là, bon, elle avait la tête baissée. Elle lève les yeux. Elle revoit son mari. Elle renouvelle. Elle voit que c'est bien son mari. Elle a été tellement surprise par le côté inattendu voir son mari qu'elle croyait mort, qu'elle en est morte. Attends, c'est pas la fin de l'histoire. Son mari a eu de la peine, bien évidemment. Il s'est tourné vers Hachem et dit, tu peux pas faire ça, cette déquête. Elle m'a laissé étudier la Torah sans me déranger. Elle était heureuse de me voir. Il a prié pour elle et Dieu l'a ressuscité. C'est une belle histoire. Hein. Ça finit bien comme le film américain, vous voyez. Kamara de Shabbat. Rabbi Khalida ben Khalinaï. Puisqu'on est dans ce qui est inattendu, et donc le danger de l'inattendu, là on vient de voir un exemple qui parle déjà de lui-même. Une femme qui a une bonne nouvelle, son mari est en vie, qui en est morte. J'en connais une autre, je vais vous la raconter, mais ça elle n'est pas sérieuse, hein, elle est un peu là. Parce que généralement je raconte toujours une histoire dans les cours, comme ça les gens se rappellent du cours. Il y avait un monsieur d'un certain âge, même d'un âge certain, qui avait gagné le gros lot, 500 millions de dollars, on va dire. Et sa famille ne savait pas comment lui annoncer. Il était âgé, peut-être un peu fragile de santé. Alors ils ont fait appel, cette histoire se passe aux États-Unis. Ils ont fait appel à un spécialiste, un psychologue. Ils ont dit, voilà, notre père, notre grand-père, a gagné le gros lot de 500 millions de dollars. On ne sait pas comment lui annoncer. C'est mon travail. Il va chez le monsieur et il lui dit, monsieur, si vous gagnez 10 000 dollars, qu'est-ce que vous faites ? Et si je gagne 10 000 dollars, moi je m'achète deux très beaux costumes. Et si vous gagnez 50 000 dollars, ben je m'achète une voiture. Et si vous gagnez $1 million, ben, je m'achète une propriété. Et je dis comme ça, il progresse. Et si vous gagnez 500 millions, oh, le monsieur dit non, ça, c'est beaucoup trop, je vous donne la moitié, je garde la moitié. Et là-dessus, le psychologue, clac, s'évanouit sur le coup. Il n'était pas prêt à une telle nouvelle. Rachi, au début de la paracha de Khaïe et Sarah, on nous raconte la mort de Sarah et Ménou, notre mère Sarah, fait la remarque suivante. La Torah nous raconte la mort de Sarah juste après la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire l'attachement de Yitzhak quand son père l'a conduit sur le mont Moria pour le sacrifier. Quand Sarah a appris cette nouvelle, on lui a dit, voilà, ton fils a été pris par son père pour être amené sur le mont Moria, où il a failli être sacrifié. Ça l'a tellement ébranlé qu'elle a perdu la vie. Elle est morte de cela, dirais-je. À l'inverse, Abraham, qui n'est pas moins son fils Isaac, lui, il a eu tout le temps de se préparer à l'événement. C'est lui qui a conduit son fils, qui l'a installé sur l'autel, qui a préparé le couteau, qui a allumé le feu. Donc pour lui, l'événement éventuel, hypothétique, qui n'a pas eu lieu, de l'éventuel sacrifice d'Israël, s'inscrivait dans une démarche progressive. Quand quelqu'un est dans cette démarche progressive, l'événement ne peut pas lui nuire. Mais on voit donc, de ce que nous avons dit jusqu'à présent, que l'habitude est une bonne chose et que la surprise en est une mauvaise, même quand il s'agit d'une bonne surprise. Si on avait cela, bien sûr, on n'aurait pas tout dit. Et on va tout de suite aborder le deuxième versant de l'habitude. Toujours dans la Gemara des Hauts de Shabbat. Je vous lis ce texte, il a deux lignes. Amekaré Abigadar de Hamato. Via Meshaber Kielab de Hamato. Femme Fazer Mirotar de Hamato. Quelqu'un très en colère déchire ses vêtements à cause de la colère. Ou bien il brise ses objets. Il jette au sol, par exemple, à cause de sa colère. Ou encore, il prend de l'argent, des pièces de monnaie, il les jette, parce qu'il est en colère. Très souvent, vous voyez que les gens passent leur colère sur des objets. Ils déchirent un vêtement, ils jettent des pièces, ils brisent des vases. Par exemple, le vase de Sosson est mort comme ça, le bord. D'accord ? Donc, tous ces cas-là, on dit « Yehiu be'enecha ki oved avodazara » Considère-le comme un idolâtre, comme quelqu'un qui se livre à un culte étranger. Là, pour le moins, c'est surprenant. Donc ça, comme ça, je ne parle pas d'une image. Ils disent « Voilà !» Quelqu'un qui est très nerveux, qui brise des objets, des gilets de vêtements, jette des pièces de monnaie, parce qu'il a des nerfs. Celui-là, considère-le comme un idolâtre. Il l'avait fait demain, enfin presque. Alors puis si on lui reproche, pourquoi on le considère comme un idolâtre? Certains de nos maîtres expliquent, c'est parce qu'il a des mouvements désordonnés, quelqu'un de nerveux, et d'énerver, il y a des mouvements brusques et donc de ce côté-là il ressemble un peu à quelqu'un qui se livrerait à un culte d'idolâtre. Mais ce que dit notamment Rachid et la plupart de nos rishonim, c'est différent. Ils disent Shika Bonto Shayetserara, Oseka, Umacha Oseka, un chez Omer, l'air à Vodavodasara, je relève vers Vod. Et car en effet, voilà comment procède le Yetserara. Il dit à l'homme, fais ça aujourd'hui, puis le lendemain il dit fais ça aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il lui dise, va servir un culte idolâtre. Et il y va. En d'autres termes, celui qui acquiert comme une mida, c'est-à-dire un comportement permanent, la colère, cet homme-là ressemble, entre guillemets, à un idolâtre parce que il a cette acquis, ce travers qui peut le rendre très vulnérable et capable de n'importe quelle bêtise, dont l'idolâtrie. Dans la même direction, il y avait un Rav, le Rav Rouna, qui disait que Vanche Avar Vera Veshinaba Mansiklo Kereter. Ça, c'est très important. Tenez bien cette phrase. Rav Rouna nous dit, quelqu'un qui a fait une Avera, une faute, et qui l'a répété le lendemain, et qui l'a répété après, elle lui semble permise. En d'autres termes, il ne voit plus la gravité de la faute. Là, nous avons, je ne sais pas si vous avez bien fait attention, on est sur l'autre versant de l'habitude. Elle devient une catastrophe. Et nous tous dans la vie, observons-nous, vous verrez que on ne fait jamais de grandes bêtises du jour au lendemain. Celui qui vous dit, moi, j'ai pété les plombs, j'ai craqué, et j'ai fait telle bêtise. Il n'a pas su lire dans sa vie les actes qui précédaient et qui peu à peu l'ont habitué à ce comportement. En d'autres termes, la veille prépare le lendemain. Chacun d'entre nous prépare sa vie de demain. On le dit pour d'ailleurs la vieillesse. Il y a des gens qui, quand ils atteignent un âge avancé, ils sont complètement à l'ouest. Je ne parle pas de la côte ouest, hein. Ils savent pas où ils sont. Ils font n'importe quoi. Ils débilisent un peu. Tout ça pourquoi? Parce que dans leur jeunesse, ils n'ont pas réalisé qu'un jour ils seront vieux. Et la Gemara dit une phrase extraordinaire. Elle dit Yashre Yalatenu, Shelo Bicha Azignotenu. Heureuse est notre jeunesse qui ne fait pas honte à notre vieillesse. En d'autres termes, par cette phrase, et ça je veux dire, qu'on prépare sa vieillesse toute sa vie. En fonction de la manière dont un jeune homme ou une jeune fille vivent, on voit déjà comment ils seront quand ils seront âgés, très âgés. Donc, c'est-à-dire, la vie est une progression. L'homme choisit, parfois sans s'en apercevoir, d'adopter un comportement qui va devenir une seconde nature. Et la Torah ne cesse de nous mettre en garde. Elle nous dit, comme cela, phrase très connue, « Mitzvah gorer mitzvah, ve'avera gorer avera. » Une mitzvah entraîne notre mitzvah, une avera entraîne notre avera. C'est logique, c'est simple. Parce que c'est-à-dire le comportement auquel parfois on est confronté, et nous-mêmes on n'a pas tendance à comprendre vite, ben il faut garder derrière soi, se dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait avant-hier, comment je me suis comporté avant, etc., etc. Et je trouve que c'est très rationnel, et je dirais presque rassurant, de savoir que l'on peut expliquer nos échecs par nos actes antérieurs. Donc, la Torah nous demande d'être vigilants à chaque instant, de réaliser que on craque pas d'un coup. On craque provisoirement. On a un copain qui nous dit, allez, viens boire un verre. on boit un verre. Puis il nous dit, on va boire un deuxième. Puis on boit un deuxième. Puis il nous dit, on boit un troisième. Puis on devient alcoolique. Je comprends pas comment je suis arrivé à avoir un foie dans cet état, des maladies gravissimes. Si, rappelle-toi le premier verre, et le deuxième, et le troisième. La vie est en fait une suite logique. Voilà pourquoi il n'y a pas d'âge pour faire des choix. Quelqu'un peut se dire, moi je suis jeune, j'ai pas fait de grandes bêtises. Tu peux les préparer déjà. On prépare en fait ces bêtises. Par contre, quelqu'un qui s'habitue à faire des mises autres, celui-là prépare ses lendemains. Par exemple, vous constaterez, on a fait des statistiques dans ce domaine, tous les élèves du cours du Salon Roche, c'est des gens extra. On a fait une enquête, on a payé des enquêteurs de l'IFO et ils ont donné le résultat. 99% des anciens élèves de Roche, c'est des sadiques. C'est pas beau ça? Ça vous remonte le moral. En tout cas, pour être sérieux, ça pourrait être le cas. Donc, l'habitude, certes, a des vertus, mais elle comporte des dangers considérables. Cependant, je vais encore vous parler de deux aspects, c'est même deux aspects, sur deux textes fondamentaux. Le premier, je ne vais pas chercher loin, c'est le premier verset du premier psaume, Tehilim, Aleph, Pasuk Aleph. Asher Adam, Asher Aish, Asher, le texte dit Lo Alar, Ba'asad Rejaim, Udeber Kataim Mohamed, Moshar Zim Lo Yashar. Heureux l'homme qui n'a pas marché littéralement dans le chemin des pécheurs, qui n'est pas resté sur la route des fauteurs, qui ne s'est pas assis au banc des moqueurs. Regardez le commentaire de nos maîtres sur ce verset. Imalach, Yamod, Imamad, Yeshel. S'il est allé avec les premiers, un jour il restera avec les deuxièmes, et un autre jour il s'assera avec les troisièmes. Même idée, la progression inéluctable de l'homme qui au départ par des comportements bénins où il ne voit pas la gravité, peu à peu glisse sur une pente. Je ne sais pas si vous avez un peu les uns ou les autres fait de la montagne, ou du ski, ou sport de glisse, au sens propre. Moi, j'ai une expérience. J'ai jamais eu énormément d'équilibre. Je parle de la marche, hein. Pas du reste. Et un jour, j'ai emmené un groupe de jeunes sur une montagne enneigée. Il y avait de la glace. Et on était à flanc de coteau, sur une pente certainement de 45 degrés. Et alors, on était quelques-uns. Il y en a un qui a commencé à glisser. Puis l'autre l'a suivi, sans vouloir. Le troisième l'a suivi, le quatrième l'a suivi. C'était l'aube, on se voyait tous arriver dans la ville. Quand on commence à glisser, on ne peut plus se retenir à rien. Imaginez, voilà une montagne en pente, enneigée ou glacée, de la glace. On est là, inéluctablement, on est projeté dans un monde qu'on ne souhaitait pas. Même quelqu'un qui est en voiture glisse sur une plaque de verglas. Il n'a plus la maîtrise de son véhicule. Comme on peut ne plus avoir la maîtrise de son corps. L'homme doit donc faire, de ce côté-là, être attentif aux premiers signaux de dérapage. Un juif, c'est quelqu'un qui a l'ESP, l'ESP, c'est un système de voiture moderne de anti-dérapage. Et en plus, il a l'ABS. Pas glisser au pénage. Tout ça, c'est le conseil que nous donne la Torah quand viennent les moments comme Kippour de faire le point d'une année. parce qu'au départ, on ne réalise pas. La moindre petite faiblesse elle est annonciatrice d'une chute catastrophique. Moi, j'ai remarqué, finalement, la kippa, par exemple. Prenons l'exemple pour les hommes, la kippa. Comme disent beaucoup, où c'est marqué dans la Torah. Parce que c'est vraiment une mitzvah fondamentale, la kippa. Il y a plus important, il y a beaucoup plus important. Le Shabbat, la kashrout, le migré, tout ça. Mais un juif qui enlève la kippa, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse. On passe à la obstruction de s'arrêter. En fait, la kippa, c'est une forme de protection de soi. Reculer dans une mitzvah, c'est se condamner à ne plus arrêter la chute. Voilà le danger élémentaire peut-être de la vie. Maintenant, à l'inverse, parlons encore un exemple que je trouve moi extraordinaire, du côté inattendu. Lorsque les enfants de Jacob, Yaakov et Avinu, ont pris leur père qui était mort en Égypte pour le conduire et l'enterrer, là vous l'avez demandé au tombeau de Marpella à Hébron. Voilà que les enfants portent le cercueil de leur père, ils arrivent devant la grotte de Marpella où ils avaient prévu de l'enterrer, et ils trouvent debout devant Ésaü. Il leur dit « Stop, vous allez, on va enterrer notre père ?» Il dit « Non, c'est à moi. » Il commence à se voir. Il dit « Ben oui, Yaakov a déjà enterré ici Léa, il a pris sa part, et ma part à moi, elle est là, c'est moi qui vais être enterré ici. » Les fils disent « Pas du tout, tu as vendu, toi, tes droits à ton frère, le droit d'aînesse, tu lui as vendu. » Et ça, il joue un mauvais espoir, il dit « Montrez-moi le document. » Zama, il avait oublié, vous voyez. Alors ils lui disent « Mais il n'est pas là, il est en Égypte. Je voudrais savoir aller le chercher. » Alors on envoie Naphtali. Naphtali, c'était la gazelle à Yala Sheloka pour aller chercher à toute allure le document. Et je ne sais pas si vous savez, mais la gazelle, c'est le symbole de la poste israélienne. Ils sont les disciples des gazelles. En tout cas, ils ont bien choisi. On décide donc d'envoyer le plus zèle des enfants d'Israël, Naphtali, pour aller chercher le document et mettre bien devant les yeux de Ésaü. Et voilà que pendant qu'il y a eu cette discussion, il y avait quelqu'un. Tout le monde était là, les enfants, les petits-enfants. Il y avait un petit enfant de Yaakov qui s'appelait Hushim. C'est le fils de Dan, Hushim ben Dan. Et il était dur d'oreille. Il n'a pas entendu ce qui s'est passé. Mais il voit que l'enterrement traîne et que le corps de son grand-père Yaakov est toujours posé là par terre. On lui demande qu'est-ce qui se passe. On lui explique. On lui dit voilà. Ésaü ne veut pas nous laisser rentrer, il a demandé l'acte de propriété, et puis l'un d'entre nous est allé le chercher en Égypte et revenu. Il dit quoi? Le corps de mon grand-père va rester comme ça, jeté au sol, en attendant que Naphtali revienne d'Égypte, il n'y en est pas question. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de bois, il l'envoie sur la tête des arbres, qui tombe, KO. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu là-bas le tombeau de Marpella, qui vont le visiter, là où il y a les tombes d'Abraham, Israël, Jacob et de Sarah, Rivka et Léa. Ils verront là-bas, d'ailleurs, c'est un endroit que les musulmans, alors les musulmans ont installé eux une mosquée, parce que ceux-là ils ne lâchent pas. Hein. Là-bas, il y a une sorte de petit monticule en marbre, et en arabe il y a marqué Ras à Ezad. La tête de Ésaü. Si vous voulez vous l'en rappeler par là, que lorsque Hushim a envoyé un bâton sur la tête de Ésaü, sa tête a dégringolé et ils l'ont enterré sur place. Ça, c'est un peu le folklore de l'événement. Mais l'événement lui-même, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que pourquoi c'est Hushin Ben Ben qui a réagi. Quand il y avait là, pas n'importe qui, il y avait Réouven, Shimon, Lévi, Yehuda, tous les grands d'Israël. Et qui est-ce qui a réagi? Hushin Ben Ben. La raison, qu'est-ce qu'il m'en a donné, vous pouvez trouver. Hein. J'ai cru l'entendre. Je peux m'en prier. Je peux m'en prier. Tu veux laisser place à J'ai pas très bien compris ce que tu vas dire, ce que tu as dit, j'espère que je vais le redire. La raison, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait de caractéristique, ce Hushin Ben Ben, si vous fûtes attentif, il était sourd. Alors quoi? Hein? Il a... Non, tout simplement, il n'a pas entendu, donc quoi? Il n'a pas suivi la discussion. Donc quoi? Pour lui, un fait s'imposait, c'est que son grand-père, Yaakov, le tzaddik, était là par terre, sans avoir encore le droit d'avoir une inhumation digne de ce nom, parce que, et ça nous empêchait de le faire. Il l'a pas accepté, il a dit non, je ne m'habitue pas. C'est le seul à ne pas s'être habitué. Je ne sais pas, moi je vous donne un exemple des temps actuels. Bon, on entend beaucoup parler en Israël notamment des négociations de paix. Alors on dit on va faire passer la frontière ici, puis là, puis tous les partis politiques s'affrontent. Qu'est-ce qu'on va donner comme territoire? Qu'est-ce qu'on va garder comme territoire? Imaginons qu'il y avait là Hushin Ben Ben. Si j'aurais dit, quij? Quoi? Vous discutez pour donner aux Palestiniens la terre d'Israël, mais il n'en est pas question. Il dirait, notamment, nous avons Jérusalem, il dirait, je sais, mais c'est à nous. Si on allait se mettre là-bas, pourquoi? Sachez que moi, un texte qui m'a toujours impressionné, qui est dans le Midrash, il y a trois endroits que nos ancêtres ont achetés avec de l'argent. C'est Jérusalem, c'est Hébron, et c'est Shechem, Shechem. Aujourd'hui, on dit Naplouse chez les Palestiniens. On a acheté, les textes du livre sont clairs, on indique même le prix qu'on a payé très très cher. Et c'est là qu'on est venu nous embêter depuis des siècles et des siècles, en s'installant à cet endroit-là. Pourquoi vous croyez que les Palestiniens ils ont venu juste ici installer leur mosquée, etc. Et à Hebron, à envahir la région. Et à Shrem, alors. Shrem, moi j'ai un faible pour Shrem, pas parce que je m'appelle Yosef, parce que je trouve que c'est un endroit exceptionnel, en fort. Au-dessus de Shrem, il y a une colline. Quand on monte sur cette colline, qu'on regarde, qui est assez élevée, on regarde la ville, on voit, c'est comment les maisons, les Palestiniens sont agglutinés l'une à l'autre, tout autour du Kever Yosef. Alors que pour eux, Yosef n'est pas un de leurs ancêtres, entre guillemets. Ils sont censés honorer. C'est juste pour nous embêter. Et d'ailleurs, à deux reprises, ils ont profané le tombeau de Yosef, et notamment quand il y avait eu les accords d'Oslo en octobre 95, normalement ils avaient signé qu'ils laissaient le libre accès au tombeau de Yosef aux Juifs. Ça n'a pas duré une minute. Ils ont tout fait pour vous en empêcher. Et encore nous aujourd'hui, comme des imbéciles, pardonnez-moi, si j'en suis, qu'est-ce qu'on fait? On dit rien. Mieux les Israéliens qui pourraient les écraser. Ils permettent qu'on aille sur le Kever Yosef par valeur actuelle, entre entre 2 et 3 heures du matin, accompagnés par l'armée, et de façon conséquente. Moi, comme je répète, j'ai notamment un endroit que j'affectionne beaucoup, j'y suis allé à plusieurs reprises. Jamais j'oublierai cette expédition. Vous avez vraiment l'impression d'une... Ceux qui aiment un peu le western, ils peuvent aller là-bas. On est arrivé en dehors de la ville, il y a un yishuv israélien, un petit yishuv. On faisait tous rendez-vous là-bas, on est monté dans un bus blindé. Et est monté dans le bus un officier supérieur israélien. Il nous a tenu un speech pendant quelques minutes. Il a dit, voilà, je vous dis tout de suite, on va rentrer dans un endroit très dangereux. Il est strictement interdit de sortir du bus, d'ouvrir les fenêtres, parce qu'évidemment les vitres étaient blindées, et s'il y a quoi que ce soit, couchez-vous par terre. Oui, comme ça vous met l'ambiance à 2h du matin. Bon, il a dit ça, et puis on a attendu. Attendu, ça a duré une demi-heure. Or moi, quand j'étais près de lui, j'ai dit, excusez-moi, pourquoi on attend? Il dit, on fait le ménage. Faire le ménage, c'est-à-dire, vous avez envoyé une troupe de soldats conséquents pour aller vérifier sur l'itinéraire du bus qu'il n'y avait pas d'embûche nouvelle. Et pendant ce petit trajet qui a duré, quoi, 1,5 km peut-être, il y avait, on était encadré de 60 soldats équipés pour les commandos, casque, gilet pare-balles, arme au poing, compagnie. C'est pas du cinéma. Ça donne un air un petit peu de Far West, sauf que c'était vrai. Et quand on arrive là-bas, on trouve le tombeau de Yosef dévasté. Et quand je vous dis dévasté, c'est-à-dire un tombeau qui était grand, imposant, en petits cailloux. Un coup de masse, ils avaient tout cassé. Les Israéliens qui sont désorganisés, ils ont reconstruit. Et ils l'ont fait une deuxième fois. Finalement, ils ont découvert un système de béton qui résiste au coup de massue. Et aujourd'hui, le Kéver, il tient plus ou moins, plutôt moins que plus. Je me souviens, moi, j'avais été tellement scandalisé qu'en venant de ce voyage, j'avais parlé à M. Kouchner, vous connaissez Bernard, ex-ministre des Affaires étrangères. Je lui ai rapporté un reportage en photo. Je lui ai dit, voilà ce que les Palestiniens font de l'accord d'Oslo. Il m'a dit, je vais en parler au président. Je crois qu'il ne l'a toujours pas trouvé. Et le monde s'en fout. Et nous, qu'ils ont fait, on nous dépossède de nos endroits kadosh. Je ne dis pas ça par dépit, mais je dis ça parce que c'est ainsi l'histoire. Le peuple juif a un peu de droit, pour ne pas dire pas de droit. Tout le monde sait pourtant qu'il a raison, et personne n'ose le dire. Moi, il y a un homme politique pour lequel je n'avais pas une estime particulière. Pardonnez-moi, je vais quand même le citer, parce que c'est quelqu'un d'éminent, c'est François Mitterrand. Bon, parmi les visites que je rendais dans le cadre de mes fonctions au président de la République, quel qu'il soit, je l'ai rendu à lui, et il me dit un jour, c'est un type très fin, certains diront rusé, peu importe. Il me dit, vous remarquerez, monsieur Grandin, que j'ai jamais utilisé le mot de territoire occupé. Il n'a jamais dit territoire occupé. Il a dit, j'ai toujours parlé de territoire disputé. C'est pas une nuance philologique. Il dit, parce qu'il me dit comme ça. Je sais que ces territoires sont à vous et que vous les aurez un jour. Ah, même si je ne pensais pas, ça m'a fait un miracle. Il fait grave. Bon, il y a peu d'autres politiques qui aiment dire la vérité et quand ils le disent, c'est toujours en privé. Pour ne pas être mal jugé par l'opinion publique. Ceci étant, on n'entend rien de personne et nous, on doit connaître le MET. Et le MET, c'est le Torah qui nous aide à le trouver. Bon, maintenant, je voudrais vous parler du deuxième thème de Kippour que j'ai sélectionné. Il y en a 18 en tout, donc on a le temps. Hein. Le deuxième thème, c'est le nom que l'on donne dans la tradition à Kippour. On l'appelle Yom HaRachamim Bedin, le jour de la miséricorde dans le jugement. Rosh Hashanah est appelé Yom HaDin. Yom HaDin BeRachamim, le jour du jugement dans la miséricorde. Et à Kippour, on dit le jour de la miséricorde dans le jugement. C'est-à-dire, en d'autres termes, les décisions que l'Éternel a prises à notre rencontre pendant Rosh Hashanah sont en délibéré et elles sont signées le jour de Kippour. Mais en fait, là encore, on a un troisième et dernier délai, c'est jusqu'à Rosh Hashanah Rabba. Vous savez, j'en ai rabat dans la fête de Sukkot, le 21 Tishri. Quand on utilise l'image très claire et très précise, ils disent à Rosh Hashanah, Hachem écrit la lettre. À Kippour, il la poste. Non, pardon. À Kippour, il la signe, et Rosh Hashanah Rabba, il la poste. Tant qu'une lettre n'est pas postée, on peut la rattraper. Donc on a un délai pour faire des choix. Qui dure 3 semaines, jusqu'au 21 Tishri, au milieu de la fête de Sukkot, à Rosh Hashanah Rabba, où on passe d'ailleurs généralement, dans toutes les communautés, la nuit réveillée à étudier, précisément pour essayer d'obtenir le pardon divin, si par malheur on n'était pas encore inscrit dans le livre de vie. D'ailleurs, ceux qui veulent assister, savez bien que je donne toujours un cours à Rosh Hashanah Rabba, qui dure toute la nuit, et je le donne en Israël. Et d'habitude, j'ai toujours donné dans la grande synagogue de Jérusalem. Cette année, on a décidé de changer de site, prendre un site magique, qui s'appelle la Khourba, qui est une vieille synagogue qui est dans la vieille ville, et que les Israéliens ont entièrement rénovée. Si Dieu veut, ça aurait été la base. Donc je vous le dis parce que si, par hasard, vous étiez en vacances en Israël pendant Sukkot, où vous devriez d'ailleurs, et que vous êtes dans une ville quelconque d'Israël, venez nous rejoindre. Il y a des gens qui viennent de partout. Il y a plusieurs centaines d'élèves. Ils viennent d'Ashdod, d'Ashkelon, de Tel Aviv, de Haïfa, et bien sûr de Jérusalem. Alors, je reviens rapidement sur le thème de Rahami. Je vais vous introduire ainsi. Lorsque le monde a été créé, le nom de Dieu qui préside à la création du monde, c'est lequel? Bereshit Bara. J'attends, hein? Elohim, bravo. Et le mot de Elohim, le nom, c'est l'attribut de justice, de rigueur. Donc, qui a créé le monde? Le Dieu de rigueur. C'est normal, parce que pour créer le monde, il faut. Créer le monde, c'est de la géométrie dans l'espace. Il faut des équations fiables, des mesures précises. On ne peut pas créer le monde de façon approximative. Donc, tout le début de la création, les 26 fois, les premières fois, où le nom de Dieu est utilisé dans la Torah, c'est toujours le mot Elohim, 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 Elohim. Sauf, au moment de la création de l'homme, lorsque l'homme est créé, le sixième jour, là, Hachem, si on dit, change de nom, il s'appelle Hachem Elohim. Et Rashi cite un Mahamar, un mot de nos maîtres, qui dit comme ça, Baderila, au début, Hachem avait pensé créer le monde avec la tribu de rigueur, avec le dîme. Et en vue que le monde ne pouvait pas subsister par la seule rigueur, il y a associé un midat rahamim. Voilà le mot qui vient. Midat rahamim. Donc, midat rahamim, rahamim, désigne en fait le nom de Dieu de Hachem, Yud Kevavke. Ce nom-là, c'est le nom de rahamim. Donc, la miséricorde est un élément de la création du monde, qui est donc le contraire de la rigueur. La miséricorde, c'est prendre la vie dans ce qu'elle a d'humain, irrationnel. Et pour bien vous le faire comprendre, je vais tout simplement utiliser un des textes de la Gemara dans Avodah Zarah, qui dit comme cela. On nous raconte un épisode qui nous raconte la vie de Rabbi. Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda, celui qui a rédigé la Mishnah, a eu dans sa vie deux épisodes que la Gemara rapporte. Le premier, le suivant. Un jour, il marchait avec ses élèves, et voilà que un petit veau, un agneau peut-être, vient se réfugier entre ses jambes, parce qu'il voulait échapper à l'abattoir. Le rabbi lui dit à Sagnon, « Zil, écarte ou safra. Va-t'en, c'est pour ça qu'il a été créé. » Il lui a rien dit de méchant, il lui a dit, « Tu m'as passé la question. C'est ton destin. » Le lendemain, cet épisode, Rabbi est tombé malade. Il est resté malade 13 ans. 13 ans de souffrance, parce que quand on dit malade dans la Gemara, on ne parle pas d'un corps au pied ou bien d'une grippe passagère, une vraie maladie, alité, 13 ans. Et pendant qu'il était alité, il voit la femme de ménage, on dit toujours une vieille femme de ménage qui était attachée à la maison de Rabbi, qui avait trouvé dans le grenier des petites souris, et elle s'apprêtait à les noyer dans un seau d'eau. Il la voit faire, il l'arrête. Il dit, laisse-les tranquilles. Et la miséricorde divine s'étend à toutes les créatures. Il a guéri le lendemain. Cet épisode est très parlant, question de là. Qu'il est tombé malade, pourquoi? Par un manque de générosité, de pitié, de miséricorde. Il a guéri grâce à, entre guillemets, un comportement de miséricorde. Voilà ce qui fait tomber l'homme malade, et voilà ce qui le fait guérir. Et en fait, l'idée de fond qu'il a derrière, je crois, c'est la suivante, parce qu'on nous donne des exemples d'animaux. En plus, les animaux, bon, les veaux peut-être, mais enfin les souris. Vous aimez les souris, moi? Non, je me tourne vers les dames, surtout parce que je sais qu'il y a une compatibilité congénitale. Personne n'aime les souris, ou presque. Hein? Pardon? Je parle de vous. Les souris, eux. En plus, c'est du mot, hein, bravo. Vous avez de l'avenir. En tout cas, on voit que les exemples volontairement donnés par Agmara sont sur des animaux pas spécialement toujours sympathiques. Pour nous apprendre quoi? Que l'homme doit avoir pitié, doit prendre en miséricorde toute la création. Il doit apprendre à respecter tout ce que Dieu a fait, même les animaux pas sympathiques. Et de là on apprend que le respect qu'un juif doit avoir s'étend à tous les niveaux de créature. L'homme, l'animal, le végétal, le minéral, tout. Et sachez que c'est de là qu'on apprend notamment qu'il ne faut pas abîmer inutilement les aliments. Les chachamim interdisent de gâcher un aliment. Je vais vous donner juste un exemple tout simple. Il est recommandé de verser un verre d'eau à quelqu'un au-dessus du pain. L'eau risque de tomber sur le pain et le rendre immangeable. Et ainsi de suite. On ne salit pas du pain si on ne doit pas manger. On respecte l'aliment. On ne jette pas ce qui reste dans l'assiette, sauf si vraiment ça nous incommode. Si on n'a pas beaucoup d'appétit, on se sert un peu. On ne jette pas l'aliment. Et ainsi de suite. Il y a un issour de misouï au khalil dans la Torah. On ne doit pas mépriser les aliments. Et ainsi de suite. Le respect, donc, va crescendo. On commençant par le matériel, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Permettez-moi enfin d'arriver au dernier point que je souhaitais vous dire quelques mots ce soir. Je trouve également dans la Gemara de Shabbat, là-bas on nous parle de quelqu'un qui s'appelait Yosef, fils de Rabbi Yoshua. Ce jeune homme a eu un malaise, il a perdu connaissance et il est mort. Puis après, il a ressuscité. Alors on lui a dit, qu'est-ce que tu as vu pendant ton coma, si je veux dire. Il a dit, Olam Afour Raïti. Trois mots qui sont restés célèbres. J'ai vu le monde à l'envers. Aïnonim et Mata, Vertatonim et Mahala. Ceux qui sont en bas, ici, dans ce monde, je les ai vus en haut, et ceux qui sont en haut, ici-bas, je les ai vus en bas. Alors, le rabbi lui a demandé, et donc, comment tu nous as vus? Il aurait répondu, vous, je vous ai vus comme vous êtes. Donnant ma pensée, s'il le fallait, que la seule valeur sûre, c'est la Torah. Il y a ici des gens très importants, parce que ils ont un rôle politique, ou bien ils ont de l'argent, ou bien ils sont considérés telle ou telle raison. Là-haut, quand on le verra dans le monde de vérité, on verra le contraire. Donc relativisons les avantages, quels qu'ils soient, dont nous bénéficions dans ce monde, soit les honneurs, les privilèges, les rôles prépondérants ou la fortune. Une seule chose restera stable. Elle sera intouchable par l'inflation et par la dépréciation de la Torah. Quelqu'un qui possède la Torah, il l'a pour l'éternité. Il acquiert la Torah, les Olmer Olami, pour l'éternité. Et c'est ce que nous avons notamment appris de cet épisode. Enfin, dernier maasé, que j'ai lu dans Rabbi Mohammed El, un des commentateurs du Chas au nom des Géonim, qui nous conte l'histoire d'une femme, d'une malheureuse, qui veut lui demander la tzedaka à quelqu'un qui s'appelait Shmuel Arav. Et il ne lui a pas répondu, parce qu'il n'y avait pas d'argent, dira le mois après, dira Rachid. Alors, son élève, qui s'appelait Rav Yehuda, lui a dit, au terme, aux noms, Isaacat Dal, Gamou Isaac, Vien Chouméa. Celui qui, littéralement, fait la sourde oreille devant le cri du pauvre, un jour il cria et personne n'entendra. Et parce qu'il a fait cette remarque, ce rab a mérité d'étudier toute sa vie devant Shmuel et de devenir un grand maître d'Israël. Et chers amis, nous allons nous arrêter là. Je voudrais, en conclusion, vous dire deux choses. La première, c'est vous souhaiter à tous d'être scellés dans le livre de la vie, Khatima Tova, comme on dit en hébreu, de passer un jeûne de Kippour dans la ferveur, dans la prière. Malheureusement, il y a des expressions, des fois en Israël, qui sont un peu tordues. Par exemple, quand on voit quelqu'un avant Kippour en Israël, on lui dit « sans calme ». Ça veut dire quoi? Voilà. Je vous souhaite un jeûne facile. Je ne dis pas que le jeûne doit être difficile. C'est pas ce qu'on souhaite en Kippour. Donc je dirais plutôt qu'on nous souhaite un jeûne plein d'émotions. Un jeûne où on va vibrer, où on va accéder à des vérités que seul Le jeûne permet de comprendre. On est débarrassé de... Prenez les choses comme ça. À Kippour, on est débarrassé de toutes les contraintes. On n'a pas besoin de s'arrêter pour manger, s'arrêter pour boire, quel kiff. Enfin, on ne mange pas. Enfin, on ne boit pas. Pour les mamans et les femmes qui célèbrent, elles n'ont pas se demandé ce que je vais faire avec le dîner à midi. Kippour, c'est la fête préférée des femmes juives. C'est encore rien à faire. Et tout ceci pour faire en sorte que la journée ait une résonance exclusivement spirituelle. Sachez que tout le calendrier juif a été ordonnancé de manière à ce que Kippour ne tombe jamais ni un vendredi, ni un dimanche. Il peut tomber tous les autres jours de la semaine. Pourquoi ? Vous pouvez trouver la réponse toute seule. Très bien, pour ne pas qu'il y ait deux Shabbats qui se suivent, parce que Kippour est appelé Shabbat. Deux Shabbats se suivent, c'est-à-dire deux jours où on ne peut pas porter. C'est très très difficile à vivre, notamment s'il y a des choses qu'on a besoin de pouvoir de porter. On ne pourra pas le faire pendant 48 heures, ce qui est évidemment un peu dramatique au niveau de la civilisation. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer ce jeûne dans l'intensité sans difficulté, et que surtout on mérite tous d'être conduits pour une nouvelle année, parce que la nouvelle année commence à peine.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'article. À bientôt.